pasuk au début de Echa. Qui dit, on parle de d'Akadosh Baruch Hu, et le pasuk dit Kara alai moed lishbor bachurai. Il, c'est Akadosh Baruch Hu, donc, ici. Il a convoqué contre moi, ou il a fixé contre moi une assemblée, un moed, un rendez-vous, ou bien une heure, un moment, pour briser mes jeunes gens. La Gemara, dans Masechet Ta'anit, elle utilise ce verset de la manière suivante. Elle dit, c'est Abaye qui parle, et il va répondre à une question que la Gemara pose. La Gemara, elle parle des 40 jours de l'exploration. Moshe Rabbeinu a envoyé des explorateurs qui ont parcouru le pays pendant 40 jours. Et la Gemara, elle voulait savoir quand étaient ces 40 jours. Alors la Gemara dit, ces 40 jours, en fait, après, donc, ils sont retournés, Hané Arbaim Yom, ces 40 jours, en fait, quand on fait le décompte, il en manque un. C'est 40 moins 1. En fait, on pourrait penser que ça ne pose pas vraiment un grand problème, parce que très souvent, la Torah utilise le mot 40 pour dire 39. Elle dit 40 pour dire les makot, il n'y a que 39, etc. Mais la Gemara, elle pense ici qu'il s'agit vraiment de 40 jours. Et Rashi explique que ce décompte des 40 jours, bon, je ne vous fais pas tout le détail, mais Moshe Rabbeinu a envoyé les explorateurs le 29 Sivan. Dans le mois de Sivan, il y a 30 jours, ça fait donc 2 jours du mois de Sivan, 29 jours du mois de Tammuz, et si on imagine qu'ils sont arrivés, comme la Gemara le pense, que les explorateurs sont arrivés le 8 Av, la veille de Tisha B'Av, ça ne fait que 40 moins 1 jour. Alors Abaye dit, le Tammuz de cette année-là, c'était un mois plein, c'est-à-dire un mois à 30 jours. Et c'est ça le sens du verset. Kara alai moed, Akadosh Baruch Hu a fait en sorte qu'il y ait 30 jours dans le mois de Tammuz, ce qui n'est pas la durée normale du mois de Tammuz, contre moi en quelque sorte. Il a convoqué une assemblée, mais on peut le lire, il a fixé contre moi un jour de plus, en quelque sorte. Un jour particulier qu'il a vraiment mis dans le calendrier contre moi pour que le mois de Tammuz ait 30 jours. Et donc, que justement le retour des Meraglim ait lieu pour Tisha B'Av, c'est-à-dire juste avant Tisha B'Av. On entend ici ce jour, cette période qui a été, ce rendez-vous qui a été fixé contre, dit le clan d'Israël, contre moi. On entend ici toute cette notion d'un moed, puisque c'est le mot qui est utilisé dans le pasouk, Ra'alai Moed, c'est le mot qu'on utilise, nous, pour les fêtes, que la Torah utilise pour les fêtes, les Moadim. Alors, on entend ici qu'il y aurait donc un Moed en ma défaveur. Ce que Rav Volbeh et d'autres appellent un Moed Shel Richouk. Normalement, le Moed, c'est un rendez-vous, donc on se rassemble. Et ici, en fait, c'est vrai qu'il y a eu un rassemblement, si on peut parler comme ça, mais c'est un rassemblement pour éloigner. On peut dire aussi, peut-être, que c'est un rassemblement pour prendre conscience de notre éloignement. Que les Bnei Israël doivent à ce moment-là comprendre combien ils sont éloignés. Combien ils sont éloignés parce que dans le futur, ce jour qu'Hachem a ajouté pour faire arriver les Meraglim la veille de Tisha B'Av, pour que cette fameuse nuit de pleurs que les Bnei Israël ont faite à la suite du témoignage des explorateurs, pour que cette fameuse nuit de pleurs, dont HaKadosh Baruch Hu a dit qu'elle s'est en fait pleurée en vain, inutilement, et du coup c'est devenu, pour l'histoire, pour tout le temps, une journée de pleurs pour les Bnei Israël, c'est une journée de destruction du premier Beit HaMikdash, et de façon évidente aussi, semble-t-il, le deuxième, c'est lié à l'époque de l'Inquisition, à l'expulsion des Bnei Israël des Juifs d'Espagne. C'est aussi à ce moment-là le déclenchement de la Première Guerre mondiale. À ce moment-là, ça fait beaucoup de choses à ce fameux Tisha B'Av. Ce Tisha B'Av, il a pu avoir lieu, en quelque sorte, parce qu'Hachem a inséré un jour de plus dans le mois de Tammuz. Qu'est-ce que ça veut dire, en fait? Nous avons dit dans les keynotes, on a repris un passouk dans Echa, c'est donc important, c'est déjà dans la Megillah d'Echa, Avoteinu chatou, nos pères ont fauté, ve'enam, mais ils ne sont plus là. Va'anachnu et nous, avanotehem, savalnu. Et nous devons supporter, nous devons souffrir à cause de leurs fautes. N'est-ce pas, Temet fait remarquer que le pasouk a commencé par parler d'un chet. Chet, c'est une faute qu'on a commise par inadvertance. C'est donc pas une faute très importante. Et finalement, le pasouk termine en disant avonotehem. Il a changé de terme. Ça veut toujours dire une faute, mais un avon, c'est une faute beaucoup plus grave. C'est une faute qui a été commise de méside, comme on dit, c'est une faute qui a été commise en toute connaissance de cause. Comment se fait-il que le verset a changé? Au début, on présente la faute comme étant une faute shogeg, une inadvertance, et à la fin, on la présente comme une faute qui a été commise en toute connaissance de cause. C'est de la même faute qu'on parle. Alors il explique, Sfat Emet explique que on peut essayer de comprendre en pensant à la situation où dans les fondations d'un édifice il y a une toute petite faille ou un tout petit défaut. Pour lui-même, il n'est pas très important. Mais plus l'édifice qu'on va construire sur ces fondations qui ont une faille, plus l'édifice va être haut, plus il risque de s'effondrer. Parce que ce qui est un tout petit écart au départ peut devenir la tour penchée, et ça marche pas, elle ne tient pas toujours comme un pis. Des fois, ça peut s'effondrer. Donc, Il utilise cette image ici pour dire que, effectivement, au cours des générations, ce qui alors était une faute négligeable, une faute de peu d'importance, ça s'est avéré quelque chose d'extrêmement grave. Et pour nous, effectivement, ce qui était shogeg chez nos ancêtres, ceux qui ont fait la faute, nous payons cela comme si c'était un zadon, comme si c'était une faute qui a été commise en toute connaissance de cause. On n'est pas ici pour essayer, je n'ai pas essayé d'expliquer pourquoi c'est nous qui payons pour eux, mais pourquoi, pour nous, nous payons le prix fort pour quelque chose qui, lorsque cette faute a été commise, est qualifiée de faute de shogeg, de faute légère. Alors, avec ce principe-là, on peut essayer de comprendre une règle qui est plus connue que ce principe, peut-être. On dit que tout ce que nos ancêtres ont fait, en fait, est un préalable. C'est quelque chose qui permet que par la suite le clan Israël fasse la même chose, que ce soit dans le bien ou dans le mal d'ailleurs. C'est Maase Avot Siman Nabanim. C'est-à-dire les actions des Avot, les actions des patriarches, mais plus généralement des ancêtres, est en fait un Siman. C'est quelque chose qui indique une voie, une possibilité. C'est un signe pour les descendants de ses ancêtres ou des Avot. À la suite de la guerre, enfin de la bataille, que Yaakov Avinu a livrée contre Sarosh el Esav, contre le prince d'Esav, la fameuse lutte contre l'ange. L'ange en question, c'est le prince, c'est celui qui représente les valeurs de Esav. Ultimement, Yaakov Avinu a gagné la guerre. Il a gagné cette bataille. Mais momentanément, le Passouk dit que l'ange a réussi à déboîter la hanche, ou il a fait quelque chose. Il a déstabilisé, en fait, Yaakov Avinu. Ça n'est que momentané, mais ça a eu un impact. Ça a un impact. Par la suite, le Passouk dit que les descendants de Yaakov ont pris l'habitude de ne pas manger le nerf sciatique, donc ce nerf qui est en rapport avec ce déboîtement de la hanche. Donc on ne mange pas ce nerf, et du coup, il y a tout un problème pour savoir est-ce qu'on peut manger la viande, à travers la chair à travers laquelle le nerf circule. C'est pour ça que beaucoup de gens, les juifs en général, ils ne mangent pas la partie arrière de la bête à cause du problème que représente le fait d'enlever toutes les ramifications de ce nerf. Le Passouk dit Alken, lo yochlu bnei Israël et gidin haché. Pour cette raison, à cause de l'histoire du déboîtement de la hanche, pour cette raison, les bnei Israël ne mangeront pas le guide anaché, ce nerf sciatique. Il y a ce mot de et qui n'est pas obligatoirement nécessaire. Et certains disent que il y a dans ce mot et, il y a une allusion. À Tisha B'Av. Et en fait, c'est tout le C'est tout cet interdit qui est en rapport avec Tisha B'Av de la manière suivante. Il y a dans la Torah 365 interdits qui correspondent évidemment, enfin, c'est pas évident, mais disons qui correspondent aux 365 jours de l'année standard. Donc il y a un lav, un interdit par jour de l'année. Et le Zohar dit que ce qui correspond à Tisha B'Av, c'est cet interdit-là. L'interdit de manger le guidan haché, c'est l'interdit qui correspond, puisqu'il y a une correspondance entre le nombre de jours et le nombre d'interdits. Ce qui correspond, on ne connaît pas les autres, mais celui qui correspond à Tisha B'Av, c'est lo yochlu, c'est l'interdit de manger du guidan haché. Certains veulent dire, ce que j'avais commencé de vous dire, c'est que ce mot de et qui s'écrit Aleph Tav, si on regarde vers Tav, Aleph, ça fait Tisha et Av. Donc c'est un remez, une allusion à Tisha B'Av en plus, si vous voulez. Alors c'est toujours essentiellement le Zohar qui dit justement que cette lutte de Yaakov avec l'ange, elle a eu lieu à Tisha B'Av. En fait, c'est Yalkut Reuveni qui le précise. Et il faut dire que ce moment, donc, où Yaakov a été déstabilisé par l'ange d'Esav, ce moment a donc, on le connaît, c'est Tisha B'Av. Tisha B'Av, c'est un moment où, en quelque sorte, l'ange d'Esav a pris le pas, c'est momentané, mais il a pris le pas sur Yaakov. Il a mis Yaakov en état d'infériorité. Il a pu le toucher, il a pu le blesser, le handicaper. Et donc, nos maîtres vont dire que, justement, c'est lié à cette prise de pouvoir d'Esav, de l'ange d'Esav, sur Yaakov, que c'est à ce moment-là, donc, que la destruction du Beth Amikdash, enfin, des Beth Amikdash, de tout ce qu'on a dit, les problèmes de ce jour de Tisha B'Av, viennent de là, ça vient d'une faiblesse de Yaakov, qui a été causé par l'ange d'Esav. L'ange d'Esav, c'est pas l'ange spécifique d'Esav seulement. Il se trouve que Esav représente l'ensemble de l'humanité, sauf les Bnei Israël. Donc l'ange d'Esav, c'est l'ange qui représente tous les peuples. Donc c'est pas, on n'aura pas un problème à cause de ce que Nebuchadnezzar n'est pas un descendant d'Esav. Ça représente, c'est tous les peuples. Bon, alors ce sujet-là est un sujet intéressant. Et c'est encore plus intéressant parce qu'il y a un Khatam Sofer qui dit quelque chose d'assez surprenant. Il dit que cette histoire que la lutte de Yaakov et d'Esav a quelque chose à voir, étant donné que c'était à Tisha B'Av, que ça a finalement à voir avec la destruction des Batei Mikdashim. Il dit, en fait, ça vient de la chose, il explique de la manière suivante, il dit qu'on lui a expliqué de la manière suivante. Le mot Yerech, qui on dit Takab Kaf Yerech Yaakov, que l'ange d'Esav a déboîté le Yerech, ce mot de Yerech s'écrit Yud, Reish et Kaf, Le Khatam Sofer dit que ça représente ici Yam, Rakia et Kissé. La mer, le Yam, le Yud de Yerer, c'est Yam. Le Reish de Yerer, c'est Rakia, les cieux. Et le Kaf, c'est le trône divin. Alors il dit, on entend Yam, Rakia, Kissé Kavod. On sait ce que c'est. Dans la Gemara, dans Hulin, la Gemara explique que la raison pour laquelle on a normalement, quand on fait des tzitzit à un vêtement, dans la Torah, il est dit que un des fils sera un fil de Tchelet. Un des fils sera un fil bleu. Bleu, azur. Et la Gemara explique pourquoi ce fil de trait, pourquoi cette couleur-là, pourquoi on n'a pas fait un fil jaune ou un fil rouge, pourquoi cette couleur-là? Parce que, dit la Gemara, très laide, ce bleu-là, domé la yam, il ressemble à la mer. Ve yam, et la mer ressemble à Rakia, aux cieux. Ve Rakia, et les cieux ressemblent au trône divin. Il y a une espèce de dérive à partir de la couleur. On n'a pas dit tout de suite que le trélet ressemble au trône divin. C'est vraiment de l'ordre de la dérive. Ça fait penser à ça, et puis en se laissant en équivalent d'une espèce de rêve, mais au niveau des couleurs, en se laissant dériver sur la couleur, on passe de ce fil de trélet nous amène à penser au trône divin, c'est-à-dire à la royauté divine. Maintenant, ces trois couleurs, enfin ces trois éléments qui partent du trélet, qui passent par Yam, Rakia et Kissé Kavod, ça correspond, dit le Khatam Sofer, à trois kedushot, à trois saintetés, trois saintetés dont le Klal Israël est imprégné, il est construit quasiment là-dessus aussi. Il y a premièrement la Kedusha de la Torah, en particulier les mitzvot qui sont dans la Torah aussi. Nous faisons une bracha, Hashem kiddushanu b'mitzvotav, Hashem nous a sanctifiés par ces mitzvot. Donc il y a la Kedusha de la Torah, la sainteté de la Torah. Kedusha nu mitzvotav venatan lanu Torato Kedusha. Ensuite, la deuxième chose, c'est la Kedusha du Klal Israël. Mais en quoi est-ce que cette Kedusha-là a à voir avec Rakia? Le Khatam Sofer explique, nous avons une mitzvah qui nous enjoint, enfin, qui nous prescrit de Vit Kadishtem, Vitem Kedoshim, vous vous sanctifierez, vous serez saints. J'aime aussi Kadesh Atzmecha Bemutar Lach, tu dois te sanctifier. La sanctification en question, ça consiste à mettre une barrière supplémentaire pour être sûr de ne pas transgresser. On s'interdit une partie qui est déjà permise, enfin qui est permise, mais on se l'interdit pour être sûr que, même si jamais on venait à dépasser en quelque sorte la limite, on serait encore dans le domaine du permis. C'est la Kedusha qui fait des hommes des tzadikim, des justes. Les tzadikim, c'est donc ces gens qui se comportent de cette manière-là. Et ils mettent une limite, on peut presque dire ici, comme le Rakia est une séparation, ils font une séparation dans le domaine du permis, ils se retirent à l'intérieur du domaine du permis, c'est la notion de Rakia. Et la troisième Kedusha, C'est la Kdusha d'Hachem. Hachem est Kadosh. Il est d'une Kdusha, évidemment, qui est au-dessus de toutes les Kdushot. C'est sa Kdusha qui donne de la Kdusha à tout le reste. Et bien que la Kadosh Baruch Hu soit complètement séparé, il a néanmoins fixé une résidence parmi les Bnei Israël. D'accord, c'est ce qui est contraire à la séparation. S'il était complètement séparé, il ne devrait pas du tout y avoir de résidence dans les Bnei Israël. Résider parmi, c'est contradictoire avec être complètement séparé. Séparé, Kadosh, ça veut dire complètement séparé. Et donc, la Kdusha, elle devrait normalement entraîner qu'il n'y ait aucun lien. Ça, c'est le paradoxe, si vous voulez, c'est qu'Hachem a, avec sa Kdusha, il a décidé de résider parmi les Bnei Israël. Ça, c'est ce que dit le Chatam Sofer. Alors, on peut reprendre cette Gemara que je vous ai citée, où Abaye dit effectivement que ce mois de Tammuz, qui normalement est un mois à 29 jours, Hachem a fait en sorte que le mois de Tammuz de cette année-là est 30 jours. Donc si vous voulez, ça a fait qu'au lieu d'arriver le 9 ou le 10 Av, selon les versions, arrivé le 9 Av, ils sont arrivés le 8. Et donc la nuit dans laquelle ils ont pleuré à la suite de la description qu'ont faite les explorateurs de ce fameux pays en disant qu'il est très bon mais que c'est impossible de le conquérir, que les gens sont plus forts que nous, ils sont même plus forts qu'Hachem, ils ne pourront pas. Les Israéliens n'ont aucune chance. À ce moment-là, tout le monde s'est mis à pleurer pendant toute cette nuit du 9 Av. Donc on peut dire qu'en fait, ce qui s'est passé, c'est toujours le Chatam Sofer qui parle, et il dit, si les Bnei Israël n'étaient pas arrivés de telle sorte que la nuit en question soit le 9 Av, on va dire qu'ils sont arrivés le 9 Av, puisque c'est la nuit des pleurs, mais si les explorateurs étaient arrivés plus tard, jamais les Bnei Israël n'auraient accepté la version des explorateurs. Pourquoi est-ce que les Bnei Israël ont été réceptifs au discours des explorateurs qui disaient « Il ne faut pas y aller, on ne peut pas aller en Eretz Israël, c'est impossible. » C'est parce que c'était le 9 Av, ça correspond au 9 Av, et le 9 Av, les Bnei Israël sont en position de faiblesse parce que c'est le jour où Esav a un pouvoir sur Yaakov. C'est le jour où Esav a réussi à handicaper Yaakov. Donc en quelque sorte, les Bnei Israël, ce jour-là, sont dans un état de faiblesse. Et donc ce qui s'est passé, ce qui peut apparaître évidemment comme scandaleux, mais ce qui s'est passé, c'est qu'Hachem a fait en sorte que les Bnei Israël se cassent la figure. Bon. Normalement, si les choses s'étaient déroulées sans intervention spécifique sur le mois de Tammuz, les explorateurs seraient arrivés trop tard pour qu'on pleure le 9 Tishri, le 9 Av, et on n'aurait pas accepté. Les Bnei Israël n'auraient pas accepté, ils auraient dit, bon, malgré votre rapport, nous faisons confiance à Hachem et nous allons. Et Hachem a fait en sorte que tout ça tourne mal, et pour ce faire, il a ajouté un jour supplémentaire dans le mois de Tammuz pour que ça tombe juste à Tisha B'Av. Bien sûr, quand l'ange d'Ésaü lutte contre Yaakov, il ne lutte pas que contre le personnage Yaakov. Il lutte, ça représente une lutte contre ces fameuses trois kedushot, ces trois saintetés, en quelque sorte, dont on a parlé plus tôt, avec Ish Imo, c'est-à-dire ce Ish, cet ange-là qui a lutté contre Yaakov, il lutte contre cela. En fait, c'est ça le problème d'Ésaü, parce qu'Ésaü veut éradiquer complètement, c'est toute la notion de Kedusha, toute la notion de sainteté, de cette sainteté qui vient d'en haut, en quelque sorte, qui vient de la Kedusha d'Hachem, qui donne la Kedusha du clan d'Israël et la Kedusha de la Torah. C'est ça l'affrontement, le problème de cette Kedusha, hein? Parce que finalement, si vous voulez, c'est ce qui fait la spécificité du clan d'Israël. C'est ça, Kedusha. La Kedusha, ça veut dire si le clan d'Israël a de la Kedusha, ça veut dire qu'il est séparé, ça veut dire autrement, séparé des autres peuples. Et Ésaü, qui est le maître, en fait, qui est le chef, qui représente en fait tous les autres peuples, il voudrait aussi représenter Yaakov. Si Yaakov n'avait pas de Kedusha, alors Yaakov serait un peuple comme les autres. Et Ésaü serait le chef, il serait le représentant, la tête pensante, le chef, quoi, en quelque sorte, de tous ces peuples. Et c'est ça qu'il a voulu faire. C'est en cela, c'est pour ça qu'il a lutté contre Yaakov. Mais le matin, le pasouk nous dit, Vayar kilo yacholo, il a vu qu'il n'y arrivait pas, c'est-à-dire qu'il n'arriverait pas à gagner la bataille définitivement. C'est-à-dire qu'il n'avait pas le pouvoir, il n'a pas le pouvoir de, en tout cas, sur les deux dernières kedushot, les deux autres kedushot que le clan Israël a, la kedusha de la Torah, elle est restée telle qu'elle. C'est ça qui est très important. Donc, il a pu toucher Yaakov lui-même, le corps de, si vous voulez, le peuple, mais il n'a pas pu toucher la Torah. C'est ça qui est important. La Gemara, dans Brachot, dit que Miyom Shecharav Bet Hamikdash, depuis le jour où le Bet Hamikdash a été détruit, donc la résidence d'Hachem a été détruite. Vous comprenez bien, c'est une parenthèse, que ça n'a pas de sens. Ça ne veut rien dire du tout que la résidence d'Hachem a été détruite. Comment est-ce qu'on pourrait bien détruire la résidence d'Hachem? C'est une contradiction dans les mots, pratiquement. Ce qui se passe, le Nefesh HaChaim m'explique, le problème de Volozhin, que cette résidence d'Hachem, elle a son pendant spirituel. Il y a un Bet Hamikdash dans le monde d'en haut, si vous préférez. Et dans le monde d'en haut, on n'apporte pas de korbanot, on n'apporte pas de... Évidemment, ce n'est pas un monde physique, mais ce qui compte dans ce monde-là, c'est la conduite des Bnei Israël. Et les Bnei Israël, par leur conduite, avaient déjà détruit le Bet Hamikdash d'en haut. Eux, ils peuvent le détruire. Les Bnei Israël, par leur conduite, peuvent détruire le Bet Hamikdash d'en haut, ce qui fait qu'en bas, il n'y avait qu'une coquille vide. Il n'y avait déjà plus de Kedusha, puisque la Kedusha, elle vient d'en haut. Dans le Bet Hamikdash d'en bas, c'était une coquille vide. On y pratiquait toutes sortes de choses, des korbanot, tout ce que vous voulez, mais c'était vide. Ça n'avait plus aucun sens. Parce que les Bnei Israël avaient déjà détruit le Bet Hamikdash d'en haut. Spirituellement, il n'y avait plus rien derrière, donc il n'y a plus de nourriture réelle du Bet Hamikdash d'en bas. C'est ça que ça veut dire, que on a détruit la résidence d'Hachem, ça n'a, c'est pas Nebuchadnezzar ou Titus qui peut détruire la résidence d'Hachem. Mais par contre, les Bnei Israël, par leur conduite, détruisent la résidence d'Hachem dans la mesure où Hachem, en quelque sorte, ne peut pas cohabiter avec les Bnei Israël quand ils se conduisent de cette manière-là. Les Bnei Israël peuvent faire en sorte que le monde, en quelque sorte, ne soit plus habitable par Hachem. C'est comme si on le renvoyait, en quelque sorte. Nous ne voulons pas de toi, en fait. Alors la Gemara dit, depuis la destruction du Beth Amikdash, Ein lo la kadosh baruch hu beolamo et la arba amot shel halacha. Bilbo. Ça veut dire quoi? Il ne reste à Hachem dans le monde, il n'y a plus d'autres, il n'y a pas de résidence, il n'y a même plus, donc, le Beth Amikdash a été détruit, même cette fameuse coquille vide n'est plus là. Qu'est-ce qui reste à Hachem? Il reste Arba Amot, c'est-à-dire en fait c'est 2 mètres sur 2 mètres, si vous voulez. On veut dire par là un tout petit espace, qui est l'espace de la Halakha. C'est-à-dire l'espace dans lequel la Halakha, la loi d'Hachem, est respectée. C'est ça. Et ce qui est très important, ça veut dire que dans ces Arba Amot-là, il y a toute la Kdusha qu'il y avait dans le Beth Amikdash. En d'autres termes, on n'a rien perdu de ce point de vue-là, par la destruction du Beth Amikdash, à condition d'être dans les Arba Amot de la Halakha. Donc, si vous voulez, on a une autre forme de Beth Amikdash, qui est la Halakha. Et de la même manière que le Beth Amikdash était la source à partir de laquelle rayonnait la Yira, la crainte révérentielle d'Hachem dans le monde, que celui qui entrait dans le Beth Amikdash, nous dit la Gemara, il était rempli de crainte révérentielle devant Hachem, eh bien dans les Arba Amot de la Halakha, il y a exactement la même capacité de rayonner la Yira de Shamaim, la crainte du ciel. Et c'est pour ça que quand nous prions chez Ibane Beth Amikdash Bimhera Beyamenu, qu'Hachem reconstruise le Beth Amikdash rapidement de nos jours, Veten Chelkeinu Betoratecha, et on demande aussi, et donne-nous notre part dans la Torah. C'est-à-dire que chacun fasse dans la Torah ce qu'il a à faire, qu'il développe sa part de la Torah. Vesham, et là-bas, Navot Rabbeira. Et là-bas, nous te servirons dans la crainte révérentielle. Alors, le mot Sham, qui veut dire là-bas, il s'applique bien à un Beth Amikdash. Mais comment ce mot de Sham s'applique-t-il à la Torah? Sham, la Torah, c'est pas un lieu. Sham, c'est un lieu. Il faut entendre ici que Sham porte sur la Torah, visiblement, d'après le texte que les mots que nous utilisons dans la prière, mais pour dire justement ce que je vous ai dit précédemment, que la Torah va avoir la même puissance, la halakha, la vie conformément à la Torah, a la même puissance, le même rayonnement que le Beth Amikdash. Et c'est ça le Sham, c'est-à-dire que ce soit par le Beth Amikdash ou que ce soit par Chelkeinu Batorah, il y a exactement la même chose. Et si on lit de cette manière, alors c'est comme si on disait on voudrait bien les deux. On voudrait bien avoir le Beth Amikdash et Chelkeinu Batoratecha, mais on peut aussi lire l'un ou l'autre. Ça veut dire, si on n'a pas le Beth Amikdash, alors qu'au moins, on est Chelkeinu Betoratecha. C'est-à-dire que qu'Hachem nous aide à ce que chacun développe sa part dans la Torah, développe ce qu'il est seul à pouvoir développer de la Torah. Alors, chacun d'entre nous a une part dans la Torah. C'est-à-dire, cette part dans la Torah, elle vient de la relation que nous avons à la Torah, que nous, personnellement, chacun d'entre nous, a quelque chose de particulier qui Avec cette particularité-là, il est lié à une part de la Torah. Que chacun ait une part de la Torah, c'est pas évident, mais on voit que, on a vu dans la Torah, par exemple, avec les filles de Slofrod, qu'elles avaient une part dans la Torah. Et ce sont elles qui ont développé une partie de la halakha. C'est pas Moshe Rabbeinu qui a développé la totalité. Il y a une part que elles, les filles de Slofrod, concernant les problèmes d'héritage des filles, ce sont elles qui ont développé. Comment est-ce qu'on développe? On développe en posant des questions, et là, à ce moment-là, on avait une réponse d'Hachem. Par l'intromise de Moshe Rabbeinu, ils ont eu la réponse d'Hachem qui a dit qu'elle parlait bien, ce qu'elle disait était juste. C'est-à-dire, elles ont dit quelque chose qui est devenu Torah. Alors, nous, on est la Torah, elle est close. On ne peut plus agir, on n'est plus dans la nevoie en question. Mais néanmoins, la Torah, dans sa totalité, avec la Torah Sheba'al Peh, elle est ouverte, cette partie-là. Le travail est encore à faire. Chacun d'entre nous, dans chaque génération, chacun a un travail dans la Torah qu'il doit faire. Et ce que nous demandons, c'est que Hachem nous aide à ce que chacun développe sa part dans la Torah. Chacun d'entre nous est intéressé à ce que tous les autres développent leur part dans la Torah. Parce que sinon, il nous manque quelque chose de la Torah. Bon, si A ne développe pas sa part, alors B, ben, il ne la connaîtra pas, parce que B, il n'a pas d'accès à cette part-là. Cette part de la Torah, elle ne sera pas développée. Et il y a une... La Torah, elle est faite pour être totalement développée. Si c'est comme ça, hein, alors on peut se demander, c'est une question que Friedländer pose, dit, pourquoi après la destruction du Beth Amikdash, HaKadosh Baruch Hu a-t-il retiré sa présence dans le monde, en fait? Pasuk Ein li moshav ba'aretz. Je n'ai plus de résidence sur terre. Mais, en fait, ce qui a été brûlé, c'est seulement la coquille. C'est seulement le Beth Amikdash qui a été détruit. Mais qu'est-ce qui a changé? Comme dit la Gemara, qu'on a cité de Brachot, elle dit que rien n'a changé. La Torah n'a pas bougé, elle n'a pas été changée, la Torah, parce que le Beth Amikdash a été changé. On n'a pas fabriqué une nouvelle Torah, vu les nouvelles circonstances, l'absence du Beth Amikdash, etc., on va changer la Torah. Effectivement, si la Torah avait été d'origine humaine, on aurait certainement changé. Il aurait fallu une nouvelle constitution pour une nouvelle forme de république ou d'empire, etc. Donc on aurait dû changer. Mais la Torah n'a pas changé. La Torah n'a pas changé malgré les circonstances, malgré cette chose aussi importante qu'est la destruction du Beth Amikdash. Alors il explique, Friedländer, il explique que le lien... Bon, qu'est-ce qu'on appelle présence divine, Ashrat Ashrina, présence de la Shrina, enfin, la présence divine plutôt, c'est donc ce lien que Kalchem a avec le monde d'en bas, avec le monde dans lequel nous sommes. Comme Hachem le dit, Shachalti Betocham, je résiderai parmi eux, etc. Qu'est-ce que c'est exactement? C'est que Kadosh Baruch Hu, par ce biais-là, il dévoile sa gloire. Il dévoile son kavod aux créatures. Pourquoi? Parce que les créatures voient clairement qu'Hachem s'occupe du monde. C'est ça que nous pouvons savoir d'Hachem, c'est seulement la façon dont il s'occupe du monde. Pour Hachem lui-même, on ne peut rien savoir. Et donc, en fait, cette Ashrat Ashrina, cette présence divine, comme on l'a vu plus haut, elle doit se perpétuer. Dans le deuxième paragraphe du chemin, après avoir dit ce qui allait se passer si on se conduisait mal, etc., alors c'est marqué dans le pasouk, c'est marqué Vesamtem et Dvaray Ele, c'est là vous mettrez ces paroles-là, etc. Et on explique, vous ferez les commandements, vous continuerez, on parle toujours de l'exil, on est en exil à ce moment-là. Et donc il n'y a plus de présence divine. Et pourtant, eh bien, justement, comment ben vous ferez les mitzvot, vous allez mettre des tefillines, vous allez mettre des mezuzot à vos maisons, tout ça pour que vous ayez en permanence, chaque fois que vous entrez chez vous, vous sortez de chez vous, vous allez remarquer que il y a des signes à tout moment qui nous sont donnés de cette présence d'Hachem. Hachem nous a dit comment fabriquer cette présence par les mitzvot. Et en fait, quand on regarde, que ce soit dans le Rambam sur les halachot de Mezouza, sur les halachot de Tfilin, etc., chaque fois le Rambam met l'accent sur là-dessus. Il dit, par exemple, à la fin de l'halachot de Mezouza, il rapporte ce que les Chachamim ont dit, que toute personne qui a les tefillines sur sa tête, qui a des tzitzit à ses vêtements, et une mezouza à sa porte, c'est une quasi-garantie qu'il ne faudra pas, parce que à tout moment, on lui rappelle, il a un rappel permanent. Donc c'est quelque chose comme la mezouza n'est pas du tout un truc magique, mais c'est un rappel. Quand tu trouves ça à ta droite quand tu entres dans ta maison, tu as un rappel. Rappelle-toi que dans cette maison, on a une Torah à garder, on a un certain comportement à avoir. Quand tu sors, rappelle-toi, tu sors maintenant dans le monde, rappelle-toi qu'il y a un comportement qui est prescrit aussi à l'extérieur. À tout moment, on a ce... La Torah nous a donné des rappels, donc d'une certaine manière, on pourrait presque dire, il y a une présence d'Hachem dans le monde. Pourquoi est-ce que Hachem dit, je n'ai plus de place, donc j'ai enlevé ma présence, mais d'un autre côté, il nous a donné des signes qui sont, disons, une façon de faire la même chose que le Beth Amikdash. Qu'est-ce que faisait le Beth Amikdash? Il nous rappelait qu'on devait avoir la présence divine en nous. C'est Veshachanti Betocham, ça veut dire Hachem voulait résider dans le cœur de chacun. C'était pas pour qu'Hachem réside uniquement dans le Beth Amikdash. C'est l'erreur qu'ont fait les Bnei Israël finalement. Ils ont traité le Beth Amikdash comme un temple. C'est-à-dire, voilà, on a les obligations, mais les obligations se limitent au temple. Et quand on sort du temple, on n'a plus d'obligations. Et c'est ce qu'Hachem dit, j'en ai rien à faire de tous les corbanotes que vous apportez, etc., au temple, parce que même quand les Bnei Israël se conduisaient mal, le temple fonctionnait normalement. À l'intérieur du temple, il fallait, enfin, j'ai pris le mot temple, mais parce qu'ils le prenaient comme tel, mais le fonctionnement du Beth Amikdash était normal. Ils s'imaginaient que ça suffisait. Ils ont traité ça comme le temple. Or, c'était pas ça du tout. Le Beth Amikdash, le Mishkan, puis le Beth Amikdash, ne sont qu'un rappel. Je ne peux pas utiliser l'expression pense bête pour ça, mais c'est vraiment un rappel. Ce qui est important, c'est que la présence d'Hachem soit dans le cœur de chacun. Le cœur, c'est l'organe de décision. D'accord ? Que toutes les décisions qu'on prend soient prises en tenant compte de ce que la halakha nous prescrit. C'est ça le but de l'exercice. Et le Mishkan, le Beth Amikdash ne sont que des rappels. Pour ne pas oublier cela, c'est ce qui se passe au Beth Amikdash de ce point de vue-là est largement moins important que que ce qui se passe dans le cœur de chacun. D'ailleurs, si on s'en était tenu qu'au Beth Amikdash, on n'a jamais failli. Les Bnei Israël n'ont jamais failli dans le fonctionnement du Beth Amikdash. Donc il n'aurait pas dû être détruit. Si on s'était occupé que de ce qui se passe au Beth Amikdash. Mais l'important, c'était ce qu'Hachem leur dit. J'ai rien à faire, comme je vous ai dit, de tous les corbanotes, tout ce que vous m'apportez, si à l'extérieur, vous vous conduisez comme des crapules. Ben, si à partir du moment où on se conduit comme des crapules à l'extérieur du Beth Amikdash, alors ça n'a rien à... ce que tu fais au Beth Amikdash n'a strictement aucune valeur, c'est inutile. C'est ça, se conduire à l'extérieur du Beth Amikdash comme des crapules, c'est en fait faire les fautes qui ont détruit le Beth Amikdash d'en haut. À ce moment-là, il n'y a qu'une coquille vide. Il faudra que quelqu'un vienne pour la détruire, bon, mais c'est... Ça, ce sera des questions politiques, quasiment. Donc, en fait, ce qui se passe, c'est que... pourquoi est-ce qu'on dit cette question qu'il pose ici? C'est ce lien-là, il est là, par le biais des mitzvot. Hachem nous a prescrit ces mitzvot. Alors, évidemment, la question qui se pose, c'est les Bnei Israël, on a perdu le Beth Amikdash quand on l'avait, je peux vous le dire. Bon, alors on a perdu le Beth Amikdash. Mais maintenant, on a l'équivalent, enfin, on a un Beth Amikdash, on a une Kedusha d'Hachem qui est dans les Arba Amot de la Halakha. Alors, la question est, où est-ce que nous en sommes, nous, par rapport à ce Beth Amikdash-là, de la Halakha? C'est l'équivalent du Beth Amikdash. Alors, ce qu'on voit, c'est que de la même manière qu'au Beth Amikdash, il ne suffisait pas de faire les gestes du Beth Amikdash. Il ne suffit pas non plus dans le Beth Amikdash, entre guillemets, que sont les Arba Amot de la Halakha, de faire les gestes de la Halakha. Ça ne suffit pas plus que ça n'a suffi dans le Beth Amikdash. Parce qu'il est important, ici, c'est ce que dit justement le Rambam, ce que je vous ai lu, le Rambam dit la même chose à la fin des Halakhot des Tfilin. Donc leur cours est beaucoup plus important que, par exemple, le mien. J'aurais plus de facilité à écouter le leur que... La Kedusha des Tfilin, c'est une très grande Kedusha, c'est vrai, dit le Rambam, mais en fait, il dit, si quelqu'un est Yerei Shamayim, alors... Les Tfilin sont là pour nous rappeler que ce qui est important, c'est la Yirat Shamayim, c'est cette crainte du ciel. Et cette crainte du ciel, c'est-à-dire cette crainte révérentielle du ciel, c'est-à-dire que ce noblesse oblige, en tant que juif, je ne peux pas me conduire de n'importe quelle manière. C'est ça qui doit nous accompagner et qui va étendre, de la manière qu'il fallait étendre le Beth Amikdash à toute la vie, il faut étendre les Arba Amot de la Halakha à toute la vie. C'est-à-dire, il faut, y compris quand on fait les choses, quand on a l'impression que, bon, voilà, je fais ce qu'il faut dans le cadre de la halakha, mais en fait, il faut faire en sorte que cette halakha déborde sur toute la vie. Il faut que cette irat shamayim, cette crainte, elle soit là dans toutes les situations dans lesquelles nous nous trouvons, y compris quand on n'est pas en train de... Enfin, en vérité... Y compris quand on n'est pas en train de d'embrasser la mezouza en entrant. Celui qui embrasse sa mezouza en entrant, mais ensuite il a complètement oublié ce que la mezouza avait à lui dire, alors formellement il est dans la halakha, il a mis une mezouza à sa maison. Mais ça n'a rien changé à sa conduite. Si dans sa maison il continue à se conduire exactement comme s'il n'y avait pas de mezouza à sa porte, la mezouza n'a servi à rien. Et la mezouza, elle est comme les korbanot au Beth Amikdash. Moi, je me dis, qu'est-ce que j'en ai à faire de vos mezouzot? Si quelqu'un se... Si dans la maison on se conduit pas, comme dit Rambam, comme on se conduit, comme on se conduirait si on avait quelqu'un de très important chez soi, dont l'opinion qu'il aura de nous nous importe, eh bien on va se conduire en tenant compte sans arrêt de cette personne qui est là et qui observe et devant laquelle on a envie de faire bonne figure. Eh bien là, la mezouza, elle devrait avoir cet effet-là. Tu es entré chez toi, alors, la mezouza, c'est bon, c'est une mitzvah, c'est très important, mais et on s'est acquitté de la mitzvah, bien sûr, une fois qu'on a fixé la mezouza à sa porte. Il y a des gens qui entrent, qui systématiquement embrassent la mezouza quand ils... Des fois, ils n'embrassent pas la mezouza, ils embrassent leur main qui a touché la mezouza. Bon, mais peu importe. On peut imaginer, si ce n'est pas devenu tellement complètement machinal, que il y a des gens d'ailleurs qui ont tellement l'habitude d'embrasser la mezouza, c'est quand ils entrent dans une maison chez des goyim, ils touchent aussi. Il faut vraiment qu'ils n'ont pas tellement de... Ça, c'est un réflexe, c'est un geste, comme ça, quand je passe le seuil, toc, la main se lève, elle touche le poteau vertical, puis on continue. Mais bon, en fait, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on n'y a pas de conscience de ce que... Qu'est-ce que c'est que cette mezouza? Qu'est-ce qu'elle me veut, cette mezouza, là? On espère qu'au moment où on a fixé cette mezouza, on savait ce qu'il y avait dedans. Mais il ne faudrait pas l'oublier après. Sinon, ce n'est plus un signe. Donc, si vous voulez, ce qui est fondamental, la question qu'on doit se poser aujourd'hui, c'est, en fait, il n'y aura de présence d'Hachem que si on fait le travail qu'on devait faire avec le Beit Hamikdash, si on le fait avec les mitzvot qui sont là à l'Halakha. Si on ne fait pas ce travail-là, on n'aura rien fait. On n'aura pas utilisé du tout cette chose extraordinaire qui est que la Torah n'a pas bougé, bien qu'on ait perdu le Beit HaMikdash. Alors bien sûr, on voudrait avoir le Beit HaMikdash parce que ça donne encore plus de rappels, si on veut, on peut parler comme ça. Ça, il y a des propriétés que le Beit HaMikdash a. Bon, j'ai l'impression, quand on lit cette Gemara, on ne dit pas que le... On dit simplement que, au lieu d'avoir un Beit HaMikdash, on a quatre coudées, en fait, carrées de... Arba Amot Shel Halakha. Mais on ne dit pas qu'on a perdu quelque chose. Donc, à nous de faire en sorte que, dans le cadre de la Halakha, on repère que cette Halakha-là, toutes ces halakhot, en fait, sont des signes de la présence d'Hachem. Kidshanu b'mitzvotav. Il nous a sanctifiés avec ces mitzvot. C'est une sanctification. C'est-à-dire, on est censé être changé par ces mitzvot. Si on n'est pas changé par ces mitzvot, on n'a rien compris à ce que sont les mitzvot. C'est-à-dire, la mitzvah, elle implique qu'on se rappelle... D'ailleurs, c'est assez intéressant. Le mot mitzvah, quand vous l'écrivez, vous pouvez aussi bien le lire metzavé que metzouvé que mitzvah. C'est-à-dire, ça se lit comme celui qui donne la mitzvah, celui qui reçoit la mitzvah et la mitzvah elle-même. C'est la même graphie. C'est les mêmes quatre lettres. D'accord? C'est exactement la même chose. Donc il n'y a pas de différence. Pas de différence, ça veut dire, en fait, que cette mitzvah-là, elle ne peut se faire que si les trois éléments sont là. Tous les trois sont constitutifs de la mitzvah. Il faut penser qu'il y a un metzavé. La mitzvah, elle a été donnée. Il y a quelqu'un derrière la mitzvah. Pas quelqu'un, mais c'est Hachem derrière la mitzvah. C'est lui qui a donné la mitzvah. Et la mitzvah, je dois la faire parce qu'elle vient de lui. Et pas parce que les autres la font ou que ça m'arrange, ou que c'est joli, ou tout ce que vous voulez. Je dois faire la mitzvah parce que il y a un metzavé, il y a quelqu'un qui a ordonné cette mitzvah. Hachem a ordonné cette mitzvah. Et moi, j'ai reçu cette mitzvah. Et je suis astreint, je suis requis d'accomplir cette mitzvah. Je n'ai pas le choix. Je n'ai pas le choix parce que mes ancêtres ont pour moi accepté une alliance, qu'on va lire dans Nitzavim, que cette alliance elle a été faite avec ceux qui sont là et ceux qui ne sont pas là, c'est-à-dire avec nous. Quand Hachem a fait cette alliance, au temps de Moshe Rabbeinu, nous sommes dans l'alliance en question. Vous me direz, mais je n'ai jamais accepté. Mais c'est comme ça, tu n'as pas non plus accepté de vivre. Tu n'as pas demandé ton avis. Tu nais avec ça. Les Bnei Noach, ils naissent avec leurs sept mitzvot, on ne leur a jamais demandé. Les Bnei Israël, aujourd'hui, ils naissent avec les mitzvot. Mais eux, on leur a demandé. Mais à un moment donné dans leur histoire, on leur a demandé. Mais pour nous, nous savons qu'on nous a demandé, si on peut parler comme ça. Mais moi, concrètement, on ne m'a pas directement demandé. En tout cas, je ne m'en souviens pas. Donc, mais néanmoins, je suis né avec ça. J'ai cette obligation-là. Tout le monde a cette obligation. On ne peut pas se soustraire à ces obligations. Mais bon, ce qui est important, c'est ça. Ce qui est important, c'est ce point-là de veiller à ce que les signes qui sont dans, qu'il y a dans, que sont les mitzvot, si vous voulez, que ces signes fonctionnent comme tels, qu'ils nous rappellent à l'ordre, qu'ils nous disent, qu'ils nous rappellent que l'important, c'est cette Yirat Shamayim, l'important, c'est de se conduire en permanence en réfléchissant, en étant conscient que on a un rôle dans le monde qu'on est obligé de jouer et qu'il y a donc des comptes à rendre. Voilà, on va s'arrêter là parce que je peux pas répondre.